Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode de My Polyglot Life en français. Un épisode assez exceptionnel parce qu'il est disponible aussi en vidéo sur YouTube. Ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo sur YouTube, mais tu peux y trouver tous les audios des podcasts. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo pour te parler de technologie et d'apprentissage des langues. En particulier, est-ce que la technologie nous rend feignants? Feignante. Est-ce que ça nous rend paresseux, paresseuses et est-ce que ça ralentit nos progrès et notre apprentissage de la langue? Réponse dans quelques instants, mais avant d'oublier, je voudrais te dire ou te rappeler que toutes les transcriptions des épisodes sont disponibles sur mon site français.mypolyglotlife.com et je mets le lien dans les notes de l'épisode. Tu devras t'enregistrer pour recevoir le mot de passe qui te donnera accès à toutes les transcriptions depuis le début du podcast en 2020. En faisant ça, tu seras automatiquement inscrit ou inscrite à ma newsletter dans laquelle je partage chaque semaine des réflexions, des conseils et des liens que je recommande. C'est vraiment un complément du podcast et c'est centré à 100% sur l'apprentissage des langues. Et je t'y parle aussi de ressources gratuites et payantes et des services que je propose. Comme je ne poste pas beaucoup sur les réseaux sociaux, la newsletter, c'est vraiment le meilleur moyen d'avoir accès facilement au meilleur de My Polyglot Life. Le lien est dans les notes de l'épisode. Allez, commençons le sujet du jour qui pourrait être un sujet de l'épreuve de philo, l'épreuve de philosophie du baccalauréat français. C'est l'examen de la fin de l'école secondaire, le lycée en France, ou ça pourrait aussi être un sujet de DELF B2 ou de DALF C1 C2. Aujourd'hui, on va donc parler de technologie et d'apprentissage des langues. Mais pas seulement comment ou quelle technologie utiliser, mais plutôt sous l'angle suivant, comme je t'ai dit dans l'introduction, les technologies disponibles accélèrent-elles ou ralentissent-elles notre apprentissage? Ou encore nous rendent-elles plus paresseux ou paresseuses dans notre apprentissage des langues? Comme tu en as l'habitude maintenant, mon expérience personnelle a bien sûr inspiré ce podcast, et ma réponse courte est oui, je pense que ça nous rend plus paresseux ou paresseuses. Mais il y a évidemment plein de bons côtés à toutes les options dont on bénéficie aujourd'hui et qu'on n'avait pas dans le passé. Je vais commencer par t'expliquer pourquoi je pense ça. Et ensuite, je te dirai quelques mots sur ce que la technologie peut nous apporter, pour contrebalancer mon point de vue un peu négatif. Tu as probablement une idée sur cette question, mais es-tu capable d'argumenter en français? Cet épisode est une bonne pratique pour écouter, et je t'invite ensuite à essayer de pratiquer pour exprimer ton opinion. Alors, pour commencer, pourquoi est-ce que je pense que la technologie nous rend un peu paresseux et paresseuses? Tout d'abord parce que notre cerveau cherche toujours à aller au plus efficace pour obtenir un résultat. Et si ton objectif, c'est de lire le menu d'un restaurant pendant que tu voyages, le plus efficace, c'est jamais d'apprendre une langue, de passer des années pour apprendre une langue étrangère. Le plus efficace, c'est de sortir ton téléphone, Google Translate, Google Traduction, et d'utiliser une application de traduction. Google, DeepL, il y en a beaucoup, mais d'utiliser une appli de traduction qui utilise l'appareil photo et l'intelligence artificielle pour te donner une traduction instantanée. Alors évidemment, le jour où tu n'as plus de batterie ou si tu n'as pas de Wi-Fi ou de données cellulaires, tu regrettes de ne pas avoir passé ce temps pour apprendre la langue. Mais c'est trop tard, tu ne peux rien y faire et tu dois te débrouiller. Je t'avoue que dans mon cas, je voyage rarement sans une batterie externe. Donc une petite batterie pour éviter de tomber en rade. Tomber en rade, ça veut dire qu'on tombe en panne. Tomber en panne d'essence, en panne de batterie, tomber en rade, c'est quand on n'a pas assez d'une ressource pour continuer à fonctionner normalement. L'un de mes premiers réflexes aussi à l'étranger, c'est d'acheter une carte SIM locale pour pouvoir continuer à communiquer et à avoir les données pour utiliser Google Maps, la traduction, etc. Si je ne peux pas utiliser l'abonnement de mon pays, bien sûr. Mais on peut même aller plus loin. C'est pas seulement pour lire un menu, au-delà des photos et de la traduction instantanée, on a aussi la capacité d'avoir des conversations entières par l'intermédiaire de ces applications. Il y a 5 ans déjà, quand j'ai voyagé au Népal, un des hôtes d'une guest house m'en a fait la démonstration et le système s'est encore amélioré depuis. Alors je te pose la question, pourquoi est-ce qu'on s'embête encore à apprendre des langues étrangères? Je pense que toi et moi, on a des éléments de réponse et on a envie de continuer à apprendre, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Par exemple, certains de mes élèves japonais à l'école ne voient pas bien l'intérêt de faire tous ces efforts. Donc, pour être honnête, la plupart des élèves sont curieux ou curieuses de découvrir une autre langue et une autre culture, mais ils ne sont pas forcément prêts ou prêtes à faire les efforts nécessaires pour apprendre à se débrouiller par eux-mêmes ou par elles-mêmes dans la langue. Et je les blâme pas. Je suis moi-même parfois comme eux ou comme elles. Qui suis-je pour leur reprocher de ne pas savoir écrire en anglais quand, même après 6 mois ici, je suis incapable d'écrire des kanji si j'ai pas un ordinateur? J'arrive à les reconnaître si je tape la prononciation et que l'ordinateur me propose des options. En général, je peux choisir le bon caractère. Mais si on me demande de l'écrire à la main, je suis incapable de le faire. Et certains élèves japonais sont aussi incapables d'écrire les kanji plus avancés. Donc c'est pas seulement les étrangers, mais aussi les enfants, comme les enfants français qui ont plus de mal avec l'orthographe. C'est vraiment une tendance générale liée à cette utilisation des ordinateurs et de la technologie qui nous suggère des mots. Donc on n'a plus besoin de les apprendre de façon active, mais plus de façon passive pour les reconnaître. Seulement, quand on n'a pas ces outils, on est perdu. Donc, cette absence de motivation à faire des efforts ou à prendre le temps nécessaire pour vraiment apprendre en profondeur, ça s'explique tout simplement, là encore, par la façon dont fonctionne le cerveau. Il veut aller au plus efficace pour économiser son énergie. Le cerveau est extrêmement énergivore. Par exemple, je constate souvent que je me sens plus fatiguée quand j'ai passé une journée entière à réfléchir à la planification des leçons, des ressources, etc., que quand j'ai passé une journée en classe devant les élèves. Certes, quand j'ai passé la journée au bureau, ma gorge est moins fatiguée que si je suis en classe, mais ma tête est beaucoup plus fatiguée. En classe, il y a un échange d'énergie, les élèves aussi font plus d'efforts, donc ce n'est pas uniquement moi qui travaille, alors que si c'est de la planification, ma tête fonctionne pendant des heures, et là je ressens la fatigue. Donc avec toutes les choses que la technologie a rendues possibles, le besoin de faire ces efforts d'apprendre la langue en profondeur est moindre. Moindre, c'est qui correspond à moins. L'effort est moindre. Et l'une des clés de l'apprentissage, des langues ou de n'importe quoi, c'est que ce qu'on veut apprendre doit répondre à un besoin. S'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas d'apprentissage durable ou alors beaucoup plus lentement. Et comme je viens de dire, on a beaucoup moins besoin d'apprendre toutes ces choses que la technologie peut faire pour nous. Une autre raison aussi pour laquelle ça ralentit, à mon avis, notre apprentissage, c'est tout simplement que ces raccourcis qu'on prend en utilisant les applis de traduction diminuent notre exposition à la langue. On apprend des mots par leur répétition en contexte. Mais quand on lit des documents au travers de l'appli de traduction, on ne voit souvent que le mot traduit et non le mot original. Sur Google Translate, par exemple, il faut appuyer sur Send to Google Translate Home pour avoir à la fois la version originale et la version traduite. Je l'utilise de temps en temps pour voir les caractères et pour vérifier la prononciation de la version originale, mais je t'avoue, je ne le fais pas tout le temps et donc mon exposition au japonais diminue de ce fait. Et finalement, comme je commence à ne plus être toute jeune, je me souviens de l'époque où on voyageait avec des guides et des cartes papier et où il n'y avait pas de smartphone. L'un des avantages de cette époque, si je me souviens bien, c'est que les contacts humains étaient plus fréquents. De nos jours, on trouve toutes les infos dont on a besoin sur Internet. Plus besoin ou presque de demander des renseignements. Et si le site web est dans la langue cible, tu peux juste appuyer sur un bouton de ton extension Chrome et ça te traduit la page automatiquement. Même sur certains navigateurs, il n'y a pas besoin de faire une manipulation, ça te traduit automatiquement la page T'as même pas vu la version originale. Comme je suis assez introvertie et timide, j'aime pas avoir l'impression de déranger les gens non plus. Donc j'avoue que j'aime bien avoir cette possibilité de me débrouiller seule et sans parler à personne. Moi, ça me va très bien, c'est parfait. Mais d'un autre côté, la nécessité d'obtenir une information en parlant à quelqu'un, ou de briser ma solitude en utilisant les personnes physiquement présentes autour de moi, parce que j'avais pas accès à mes amis qui étaient loin, ça m'obligeait à sortir de ma zone de confort et me donnait la possibilité de faire plus de rencontres. De nos jours, quand tu débarques dans la salle commune d'un hostel et que tout le monde, moi y compris, a les yeux rivés sur son téléphone ou son ordinateur portable, c'est difficile d'approcher quelqu'un sans avoir l'impression de déranger. Et quand j'ai demandé à une personne que je connais qui a fait le JET programme, donc le même programme que moi il y a 30 ans, au tout début, comment elle avait fait pour survivre dans sur une petite île isolée du Japon, sans parler japonais, sans Google Translate, et tout ce dont on bénéficie aujourd'hui, voici ce qu'elle m'a répondu. Elle m'a dit que typiquement, les étrangers qui arrivaient comme ça pour enseigner l'anglais étaient adoptés par une personne ou une famille qui aidait pour naviguer la vie quotidienne et l'administration. Donc bien sûr, ça arrive encore aujourd'hui. J'ai une copine qui est arrivée en même temps que moi et qui vit ce genre de situation. Mais ce n'est pas mon cas. Peut-être aussi parce que je suis plus âgée et que je renvoie une image de personne très indépendante. Donc peut-être que les gens d'ici laissent une distance ou laissent cette barrière. Donc, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays que j'ai visités. Mais peut-être que ça vient aussi de moi, qui ne suis pas aussi approchable que l'autre fille que je connais. Donc voilà, pour résumer en quelques mots pourquoi je pense que la technologie nous rend feignants ou feignantes dans l'apprentissage des langues, je pense que c'est simplement une recherche d'efficacité de la part de notre cerveau. C'est tout naturel en fait. En effet, il n'y a presque plus de besoin d'apprendre une langue liée à la survie. On peut utiliser des applis pour gérer les besoins matériels comme manger, acheter des choses, faire des transactions, etc. Et par ailleurs, nos besoins en termes de contacts sociaux ont changé également. D'une part, on peut communiquer avec les locaux grâce à la diffusion de l'anglais et à l'utilisation d'applications de traduction, toujours plus précises. Et d'autre part, on n'a peut-être pas autant d'incitations à nouer des contacts, des relations locales, parce qu'on peut plus facilement rester en contact avec notre famille et nos amis qui sont à l'autre bout du monde. Skype, FaceTime, il y a plein de manières de communiquer. Donc on est parfois plus proche des personnes qui sont loin que des gens qui sont autour de nous. Surtout au début, quand on arrive dans un endroit où on ne connaît personne, le réflexe est peut-être de se tourner vers les gens qui sont disponibles à l'étranger. Donc, entre cette absence de besoins pressants qui diminue notre motivation et aussi la qualité d'attention de notre cerveau, on est toujours distrait par les notifications, donc on a beaucoup de choses à faire, donc on a peut-être moins cette capacité à se concentrer pendant longtemps et profondément. Aussi le fait que les applications diminuent l'engagement de notre cerveau pour déchiffrer la langue. Tout ça explique qu'on progresse peut-être moins vite que si on n'avait pas ces outils. Mais aussi parce que la technologie nous a habitués à l'instantanéité. On a tendance à devenir de moins en moins patient. On peut avoir une traduction en un clic. Alors que l'apprentissage des langues, ça prend du temps et on a du mal à être patient et à comprendre que ce processus est lent, mais c'est normal. Et on ressent une certaine frustration devant notre propre lenteur. Mais notre lenteur est tout à fait naturelle, et c'est ça qu'il faut parfois apprendre à accepter et à savoir surmonter pour continuer à faire ses efforts et à s'engager dans ces situations qui sont plus difficiles, moins confortables et moins rapides, mais dans lesquelles on va apprendre beaucoup plus qu'en un clic de Google Translate. Il y a un autre point négatif aussi que je voudrais mentionner, qui nous rend pas paresseux, mais qui peut conduire à la paralysie ou à la stagnation de notre niveau, c'est le fait de se sentir dépassé. Il y a tellement d'options, des cours en ligne, des applis, etc., On s'éparpille, on divise notre attention, on ne sait plus quoi utiliser, on commence une chose, puis une autre, puis une autre. Donc on perd cette constance et on se laisse déborder, dépasser par toutes les options possibles. Et cette distraction nous empêche parfois de progresser. On reste, on fait du surplace, on tourne en rond au lieu de s'élever. Mais d'un autre côté, et là j'en viens aux aspects positifs de la technologie, si on n'avait pas ces outils et cette facilité à traduire des textes ou à communiquer, on aurait peut-être carrément envie d'abandonner, de dire stop, j'arrête d'apprendre cette langue. Si c'est trop difficile, notre cerveau peut aussi décider de bloquer et de dire stop. Donc, au final, en utilisant ces technologies, on progresse peut-être plus lentement, mais c'est toujours plus rapide que si on arrêtait complètement. Un autre point positif, c'est évidemment la variété des ressources et des méthodes d'apprentissage que nous donnent les technologies. Pour les personnes qui ont un trouble de l'apprentissage quelconque ou un handicap, les technologies rendent beaucoup de choses possibles qui ne l'étaient pas avant. On peut aussi trouver des cours sur tous les sujets qui nous intéressent, ainsi que des profs disponibles à des horaires qui nous conviennent. Je ne vais pas m'étendre sur les aspects positifs, parce que je pense que tu en connais déjà beaucoup. C'est peut-être la partie la plus facile à argumenter sur ce sujet. Mais je t'invite à réfléchir en français et pourquoi pas à discuter avec tes amis ou un ou une tuteur ou tutrice et à trouver des exemples personnels pour pratiquer de t'exprimer sur ce sujet d'actualité qui est aussi complexe et nuancé. Pour conclure, je dirais que la clé est là encore dans la métacognition, c'est-à-dire dans la réflexion sur notre apprentissage. Faire les choses en conscience, c'est-à-dire qu'on sait pourquoi on fait ce qu'on fait, on évalue régulièrement l'efficacité de nos actions et on ajuste notre plan d'action ou notre plan d'apprentissage pour corriger les défauts et améliorer ce qui n'est pas satisfaisant. C'est ça la métacognition et l'utilisation en conscience. Et nous, ça, on le fait avec notre processus d'apprentissage, mais aussi, c'est la même chose avec la technologie. Voici une liste de questions que je t'invite à te poser. Pourquoi on utilise les technologies ou pourquoi tu utilises celle-ci ou celle-là en particulier? Qu'est-ce qu'on veut obtenir? En quoi ça va nous aider? Quelles sont les alternatives possibles? Quelles sont les conséquences de ne pas utiliser ces technologies? À quel moment c'est indispensable et à quel moment c'est du confort? Et si c'est du confort, est-ce que je peux ne pas les utiliser et engager mon cerveau un peu plus pour accélérer la rétention des informations, pour approfondir cet apprentissage. Je sais, je t'ai balancé cette liste de questions un peu vite, mais tu peux repasser l'extrait du podcast pour les réécouter, je vais les mettre dans les notes de l'épisode, et tu peux aussi aller voir la transcription pour prendre le temps de réfléchir à toutes ces questions, tranquillement, faire du journaling si c'est quelque chose qui t'intéresse, et évaluer ton utilisation des technologies et ce que tu pourrais faire pour les utiliser de façon plus productive et aussi pour savoir quand est-ce que tu devrais peut-être faire plus d'efforts au lieu de les utiliser systématiquement. Voilà, si tu veux parler à quelqu'un qui a une connaissance à la fois des méthodes old school, c'est un anglicisme qu'on utilise en français pour parler des méthodes plus traditionnelles, crayon, papier, flashcard, donc ce genre de choses. Donc, si tu veux parler à quelqu'un qui a une connaissance des méthodes old school et des nouvelles technologies, en plus de t'aider à y voir plus clair dans le parcours d'apprentissage grâce au coaching linguistique, contacte-moi pour découvrir le programme Feuille de route Your French Roadmap. Je te mets le lien dans les notes de l'épisode et n'hésite pas à m'envoyer un message si tu veux plus d'informations. À bientôt, ciao ciao.